Le templarisme et jésuitisme.
Nous les avions rencontrés trop souvent, dès l'époque des premiers manifestes Rose-Croix. Dès 1620 paraît en Allemagne une Rosa Jesuitica, où l'on rappelle que le symbolisme de la rose est catholique et marial avant que d'être Rose-Croix, et l'on insinue que les deux ordres seraient solidaires, et les Rose-Croix seulement une des reformulations de la mystique jésuitique à l'usage des populations de l'Allemagne réformée. Je me rappelais les mots de Salon sur la haine avec laquelle le père Kircher avait mis au pilori les Rose-Croix, et justement quand il parlait des profondeurs du globe terraqué. Le père Kircher, disais-je, est un personnage central dans cette histoire. Pourquoi cet homme, qui si souvent a témoigné de son sens de l'observation et de son goût de l'expérimentation, a-t-il ensuite noyé ses quelques bonnes idées dans des milliers de pages qui débordent d'hypothèses incroyables? Il était en correspondance avec les meilleurs hommes de science anglais. Et puis, chacun de ses livres reprend les thèmes Rose-Croix typiques, apparemment pour les contester. En fait, pour les faire siens, pour en offrir sa version contre-réformiste. Dans la première édition de la Fama, ce monsieur Hasselmeyer, condamné aux galères par les jésuites à cause de ses idées réformatrices, s'épuise à dire que les vrais et bons jésuites, ce sont eux, les Rose-Croix. Bien, Kircher écrit ses 30 et quelques volumes pour suggérer que les vrais et bons Rose-Croix, ce sont eux, les jésuites. Les jésuites sont en train d'essayer de mettre la main sur le plan. Les pendules, il veut les étudier, lui, le père Kircher. Et il le fait, même si c'est à sa façon. En inventant une horloge planétaire afin de savoir l'heure exacte de tous les sièges de la compagnie dispersée de par le monde. Mais comment faisaient-ils les jésuites pour savoir qu'il y avait le plan quand les templiers s'étaient fait tuer pour ne pas avouer? Demandait Diotta Levi. Ce n'était pas du jeu de répondre que les jésuites en savent toujours un poil de plus que le diable. Nous voulions une explication plus séduisante. Nous la découvrîmes bien vite. Guillaume Postel, de nouveau. En feuilletant l'histoire des jésuites de Crétine au Joly, et que de gorges chaudes n'avions-nous pas faites sur ce malheureux nom, nous découvrîmes que Postel, pris par ses fureurs mystiques, par sa soif de régénération spirituelle, avait rejoint en 1544 Saint Ignace de Loyola à Rome. Ignace l'avait accueilli avec enthousiasme, mais Postel n'avait pas réussi à renoncer à ses idées fixes, à ses kabbalismes, à son œcuménisme, et cela ne pouvait enchanter les jésuites. Et moins que tout, l'idée la plus fixe de toutes, sur laquelle Postel ne voulait nullement transiger, que le roi du monde devait être le roi de France. Ignace était saint, mais il était espagnol. Ainsi, à un moment donné, on est arrivé à la rupture. Postel avait quitté les jésuites, où les jésuites l'avaient mis à la porte. Mais si Postel avait été jésuite, ne fût-ce que pour une courte période, il devait bien avoir fait confidence à saint Ignace, à qui il avait juré obédience, perinde ac cadaver, de sa mission. « Cher Ignace, avait-il dû lui dire, sache qu'en me prenant moi, tu prends aussi le secret du plan templier, dont indignement je suis le représentant français. Et même, soyons tous là ensemble à attendre la troisième rencontre séculière de 1584. » Et autant vaut l'attendre ad majorem Dei gloriam. Or donc, les jésuites, à travers Postel et en vertu d'un de ces moments de faiblesse, viennent à apprendre le secret des Templiers. Un secret pareil, ça s'exploite. Saint Ignace passe à l'éternelle béatitude, mais ses successeurs veillent et continuent à tenir Postel à l'œil. Ils veulent savoir qui il rencontrera en cette fatidique année 1584. Hélas, Postel meurt avant. Et il ne sert de rien qu'un jésuite inconnu, comme le soutenait une de nos sources, fût à son chevet à l'heure de sa mort. Les jésuites ne savent pas qui est son successeur. Pardon, Cassobon, avait dit Belbeau. Il y a quelque chose qui cloche, à mon avis. Si l'on va bien ainsi, les jésuites n'ont pas pu savoir qu'en 1584, la rencontre était ratée. Il ne faut cependant pas oublier, avait observé Diotta Levi, que d'après ce que me disent les gentils, ces jésuites étaient des hommes de fer qui ne se laissaient pas facilement rouler dans la farine.
Ah, si c'est pour ça, avait dit Belbeau, un jésuite se boulotte deux templiers au déjeuner et deux au dîner. Eux aussi ont été dissous, et plus d'une fois, et tous les gouvernements d'Europe s'y sont mis. Ils sont pourtant encore là.
Il fallait se mettre dans la peau d'un jésuite. Que fait un jésuite si Postel lui glisse entre les doigts? Moi, j'avais eu tout de suite une idée. Mais elle était si diabolique que même nos diaboliques, pensais-je, ne l'auraient pas avalée. Les Rose-Croix étaient une invention des jésuites. Postelmore, proposai-je. Les jésuites, pleins d'astuces à leur habitude, ont prévu mathématiquement la confusion des calendriers et ils ont décidé de prendre l'initiative. Ils mettent sur pied la mystification Rose-Croix, en calculant exactement ce qui se passerait. Au lieu d'une quantité d'exaltés qui mordent à l'hameçon, quelqu'un des noyaux authentiques, pris par surprise, se présente. En ce cas, on peut s'imaginer lire de Bacon. Floude, imbécile, tu ne pouvais pas la fermer? Mais monsieur le vicomte, my lord, ils avaient tous l'air d'être des nôtres. Crétin, on ne t'avait pas appris à te méfier des papistes. C'est toi qu'on aurait dû cramer, pas ce malheureux d'Enola. Mais alors, disait Belbeau, pourquoi, lorsque les Rose-Croix se transfèrent en France, les jésuites ou ces polémistes cathos qui travaillent pour eux les attaquent-ils comme des hérétiques et les possédés du démon? Tu ne voudrais pas prétendre que les jésuites travaillent dans la linéarité? Quelle sorte de jésuites ce serait? Nous avions disputé longuement sur ma proposition, pour enfin décider d'un commun accord qu'il valait mieux retenir l'hypothèse originelle. Les Rose-Croix étaient l'appât lancé aux Français par les Baconiens et par les Allemands. Mais les jésuites, sitôt les manifestes parus, avaient vu clair dans leur jeu. Et ils s'y étaient immédiatement jetés dans le jeu pour brouiller les cartes. D'évidence, le dessein des jésuites avait été d'empêcher la réunion des groupes anglais et allemands avec le groupe français, et tout coup, pour bas qu'il fût, était bon. En attendant, ils enregistraient les nouvelles, accumulaient des renseignements, et les mettaient où? Dans Aboulafia, avait plaisanté Belbeau. Mais Diotalevi, qui entre-temps s'était documenté pour son propre compte, avait dit qu'il ne s'agissait pas d'une blague. Les jésuites étaient certainement en train de construire l'immense, surpuissant calculateur électronique qui devrait tirer une conclusion du brassage patient et centenaire de tous les lambeaux de vérité et de mensonges qu'ils recueillaient. Les jésuites, disait Diotalevi, avaient compris ce dont ni les pauvres vieux templiers de Provins, ni l'aile baconienne n'avaient eu encore l'intuition. C'est-à-dire qu'on pouvait arriver à la reconstitution de la carte par une voie combinatoire, en somme par des procédés qui anticipent ceux de tout moderne cerveau électronique. Les jésuites sont les premiers à inventer Aboulafia. Le père Kircher relit tous les traités sur l'art combinatoire depuis Lulle. Et voyez ce qu'il publie dans son Ars Magna Sciendi.
On dirait un canevas pour dentelle au crochet, disait Belbeau.
Que non, monsieur, ce sont toutes les combinaisons possibles entre N éléments. Le calcul factoriel, celui du Sefer Jessira, le calcul des combinaisons et des permutations, l'essence même de la Témoura.
Il en allait certainement ainsi. Une chose était de concevoir le vague projet de Floude. Pour repérer la carte en partant d'une projection polaire, une autre, de savoir combien d'essais il fallait. Et savoir tous les tenter pour arriver à la solution optimale. Et surtout, une chose était de créer le modèle abstrait des combinaisons possibles et une autre de concevoir une machine en mesure de les mettre en action. Alors, aussi bien Kircher que son disciple Schott projettent de petites orgues mécaniques, des mécanismes à fiches perforées, des computers ante litteram, fondés sur le calcul binaire. Cabale appliquée à la mécanique moderne. IBM, Jesus Babbage Mundi, Jesum Binarium Magnificarum. AMDG, Ad Majorem Dei Gloriam, allons donc, Ars Magna Digitale Gaudium, IHS, Jesus Hardware and Software.